Alors là, vous venez d'entendre un petit extrait musical d'un disque de Jean Wiener, avec des morceaux de Gershwin, parce que Jean Wiener est un des compositeurs, musiciens, qui a écrit parmi les premières musiques de vos films, Paul Grimaud, je crois.
Oui, il a commencé à... J'ai commencé à travailler avec Jean en 1930 et des poussières, quand je faisais des petits films publicitaires en vue réelle avec Jean Orange. Et à chaque fois que nous faisions un petit film... On avait besoin de l'accompagner, de mettre un peu de son dessus, parce que c'était le début du sonore. Et Jean Wiener arrivait comme ça, il se mettait au piano, il regardait le film, et vous savez, il bloquait ça, il partait, il brodait quelque chose, toujours ces choses merveilleuses. Et un jour même, il est arrivé, alors qu'on tournait un petit film pour une boîte, une maison de meubles aussi, et il arrive avec un jeune homme, comme ça, il dit, j'ai déniché ce gars-là tout à l'heure. Et avec son zinzin, avec son violon sous le bras, il m'a dit, il est formidable. Je lui ai demandé de venir avec moi, alors on va lui demander de me suivre, on va enregistrer un truc tous les deux. Et Jean se met au piano, plaque quelques accords, et le gars commençait à jouer, c'était formidable, c'était Grappelli. C'était un de ses tout premiers enregistrements, c'est comme ça. Mais Jean était un gars que je pourrais en parler pendant des heures, mais ça, je suis toujours embarrassé, je ne sais pas par quel bout le prendre. C'était un gars complet, et surtout, ce qu'il dégage pour moi, avec maintenant qu'il n'est plus là, c'est vraiment la grande amitié, enfin, une espèce d'auréole d'amitié, d'amour pour les autres, c'était formidable avec Jean. Et ça, quand je vois Jean, c'est d'abord, avant de voir sa figure, avant de faire le point sur son visage, je vois d'abord son sourire, c'est curieux comme phénomène. Hein. Je vois d'abord son sourire, puis le visage se reconstruit autour.
Bien, alors après ce bel hommage à Jean Wiener, qui est un musicien que j'aime beaucoup, moi aussi, et que j'écoutais très jeune, parce que mes parents avaient un disque du Bœuf sur le Toit, donc, alors avec Jean Cocteau, toute la belle période du Bœuf sur le Toit, donc j'ai beaucoup écouté de Jean Wiener, et puis dans le jazz, qui a touché d'ailleurs un peu à tout, hein, il a adapté des trucs de Mozart, il a adapté...
Ah oui, puis alors il avait fait ce très beau numéro en duo avec Clément Doucet, et puis après cette période de découverte de la musique, et de la bande sonore sur les films, j'ai commencé à faire de l'animation à ce moment-là, un peu de dessin animé. Et mon premier scénario de dessin animé que j'avais écrit en 1930, ça devait être en 33, quelque chose comme ça, 33 ou 34, ça s'appelait Monsieur Pipe fait de la peinture. Et j'avais montré le scénario à Jean Wiener, et tout de suite il s'était mis au piano, et même il venait travailler avec moi, il m'avait dit on va louer un piano, il avait collé un piano dans mon studio, et il venait là tout le temps comme ça, puis il jouait des trucs, alors ça me donnait des idées, puis c'était parti comme ça. Et c'est vraiment avec lui que j'ai fait tous mes premiers films. C'était Monsieur Pipe, qui est un film que j'ai jamais terminé, mais la musique était très belle, c'était dommage. Ça a été le film que j'ai fait pour l'exposition de 37, le premier film Phénomènes électriques, qui était un film, c'était l'ancêtre du cinémascope, film qui utilisait l'hypergonard, l'objectif anamorphoseur du professeur Chrétien, et c'était un film qui a été projeté sur un écran de 60 mètres de large sur 10 mètres de haut, avec trois projecteurs en série pour composer une seule image sur l'écran. Et il a fait je me souviens quand il avait fait cette musique, il y avait une partition d'une partie de corps anglais extraordinaire là-dedans. Et c'est une chose qui prenait au trip comme ça. Puis on a fait l'épouvantail, l'épouvantail, et un tas de choses après, quoi.
Alors voilà, donc ce superbe hommage à Jean Wiener, j'aimerais bien qu'on arrive à la table tournante. Alors la table tournante passe encore dans deux cinémas parisiens, le Latina et le Reflet Médicis. Et il serait temps que tout le monde s'y précipite pour aller le voir, parce qu'il s'agit, à mon avis, d'un très beau film. Dans le palmarès 88, je l'ai mis en deuxième place. Après, trois places pour le 26 de Jacques Demy, hein, puisque je vous ai donné le palmarès de l'année la semaine dernière. Et c'est drôle, puisqu'on retrouve Jacques Demy au générique de La Table Tournante. Alors, comment ça s'est passé avec Demy? D'où vient l'idée?
Eh bien, d'abord, d'où vient Demy? Demy vient de Nantes, et il est venu me voir en 1953, quelque chose comme ça, alors qu'il voulait faire de l'animation. Il est rentré dans mon studio avec un autre garçon qui, lui, était décorateur. Et à ce moment-là, ça n'était pas reluisant. Enfin, mon propos, je faisais des petits trucs sans grand intérêt, des espèces de machins de publicité. Bon, je glisse là-dessus rapidement. Et Jacques a travaillé avec moi pendant quelques temps, pendant plusieurs mois, et je l'ai dégrossi un petit peu. Enfin, j'ai habitué un peu au métier, comme ça. Mais enfin, en fait, c'était peu de choses. C'est un gars qui était extrêmement doué, qui est extrêmement doué, et qui a un cinéma très, très personnel. Quelquefois, ça déroute des gens qui sont habitués à regarder les choses qui se mordent la queue un peu. Les gens qui installent leur caméra ou leur table, leur machin, leur chevalet derrière un autre, et puis qui ne traduisent les choses que de la façon dont les autres les ont interprétées avant eux. Enfin, Jacques, par exemple, quand il fait un film, c'est son cinéma, lui, c'est son rêve poétique, son rêve plastique, c'est toute sa gentillesse, toute sa tendresse qui sort. C'est merveilleux. Moi, Jacques, je ne vais pas l'inventer, je ne vais pas vous le raconter maintenant, mais il faudrait le connaître pour savoir vraiment qu'il est inépuisable. Puis il est plein d'inventions, il est marrant en plus, enfin, il fait bien la cuisine, il choisit bien ses pinards. Non, c'est vrai, quoi, il est drôle, et je l'aime bien, quoi, c'est ça. Bon, en tout cas, Jacques, un jour, comme ça, j'étais en panne, je lui dis, je suis en train de préparer un truc, il y a des copains qui m'avait dit, qui m'avait conseillé, alors que j'avais envie de refaire un autre film, un autre long métrage, et puis je butais un peu dessus parce que les copains m'avaient dit tu devrais faire ce qu'on fait chez nous aux États-Unis, en tout cas, c'est prendre des courts métrages, ceux que tu préfères dans les films que tu as fait, puis tu les réunis, t'en fais un programme que tu présentes toi-même, et les gens là-bas, ça les intéresse, ça marche bien. Et bon, il me parle de ça, et dans le fond, je me sentais pas à mon aise, parce que s'il avait fallu que je raconte, que je vende mes pianos moi-même, enfin que j'arrive en disant, regardez ces films, ils sont formidables, vous allez voir ça, c'est moi qui les ai faits, enfin, j'en peux pas quand même, faut pas charrier, quoi. C'est un boulot que je sais pas faire. Et puis même, j'aimerais pas que quelqu'un le fasse à ma place, en plus ça me gênerait d'être à côté, et puis d'écouter les compliments comme ça. Alors, c'est Jacques qui a eu cette idée, il m'a dit, mais tu sais, ce serait formidable, ce serait que tu aies un de tes petits personnages qui interviennent et puis qui te pose des questions, et puis tu démarres là-dessus. Alors, si c'est lui qui te pose des questions, c'est autre chose. Alors, j'ai dit, après tout, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça, c'est vraiment la vraie bonne idée. Alors, moi, je me suis senti d'un seul coup très à l'aise, et puis on a travaillé ensemble le scénario, et je suis dans le film, je joue. Et je ne sais pas si je joue bien ou pas. En tout cas, c'est Jacques Demy qui m'a mis en scène. Il était derrière la caméra et je me suis senti très à l'aise avec lui, ce que j'aurais pas su faire derrière quelqu'un d'autre. Quoi. Non, c'est un film moi que je. Vous en pensez du bien, vous en avez dit du bien. Je vais pas en dire autre chose, moi, parce que c'est vraiment ce que j'en pense, quoi. Je pense que c'est un. Moi, quand je regarde ça, je dois dire que j'ai choisi parmi les films que j'avais faits, qui n'ont pas été là-dedans. J'ai choisi ce que je préférais, enfin les films que je préférais, des films qui avaient disparu même depuis longtemps, mais qui représentaient vraiment quelque chose de profond pour moi. Et c'est ça, autour de ça, qu'on a construit le film. Enfin, c'est.
Alors, sur l'appréciation du film, on a des petites divergences, Sabine et moi, puisque moi, je trouve justement qu'il y a une évolution et chromatique et dramatique dans la construction du film que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Par contre, toi, Sabine, je crois que tu n'as pas ressenti la construction du film de la même manière.
Non, enfin, pas tout à fait. C'est vrai que c'est un film que j'ai énormément aimé, même. Rien que par la présence de tous ces courts-métrages qui sont dans l'ensemble très très beaux. Puis quand on a vu Le Roi et l'Oiseau, qu'on a apprécié la poésie que transporte ce film, qu'on a apprécié la beauté plastique aussi de l'image du Roi et de l'Oiseau, je crois que c'est La Table Tournante, c'est un film qu'il faut absolument aller voir. Mais la réserve que j'émettrais, se situe surtout sur un niveau formel. En fait, quand j'ai entendu parler de ce film, quand j'ai entendu comment il était construit, je me suis dit il y aurait peut-être deux formes extrêmes comme ça pour le concevoir. Une forme qui se voudrait pratiquement la rétrospective pure, qui serait une forme assez froide, assez et objective aussi, c'est-à-dire un bout à bout comme ça de films que vous auriez choisi ou de l'ensemble de l'œuvre, ou bien quelque chose de beaucoup plus élaboré, un documentaire sur une œuvre ou sur une partie de votre œuvre. Et en fait, bon, j'ai été un petit peu, peut-être pas déçue, mais frustrée.
Ça dépend de ce qu'on guette aussi, de ce qu'on attend d'un spectacle ou qui est déjà annoncé, présenté d'une certaine façon. Pas par moi, mais enfin, les gens ont déjà des idées arrêtées. Avant, au programme, il y a des a priori. Enfin, ça, on peut pas lutter contre ça. Ce que j'ai cherché, moi, à faire, c'est... Je ne voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de moi, quelqu'un qui me pose, qui m'interviewe. Il faudrait qu'il soit quelqu'un qui me pose des questions et que je réponde, parce qu'à ce moment-là, ça prenait un ton télévision, et c'était pas le propos, c'était pas ça la chose. Il y a ce petit clown qui intervient, qui lui est curieux, il sait pas ce que c'est, il existe. C'est un personnage que j'ai dessiné, que j'ai créé, à mon échelle, comme ça, en le dessinant comme il serait venu facilement au bout de mon crayon sur la table. Et ce petit personnage, il est naïf, il est un peu, il a son caractère, il a son truc. Et il sait même pas ce que c'est que l'animation, il voudrait comprendre. Je suis obligé d'arriver à des choses extrêmement simples, je me mets à sa portée. Et je lui ai assez porté, en même temps je lui montre, je lui fais découvrir l'animation de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire d'abord en poussant un objet, en faisant un truc comme ça. Les gens qui savent ce que c'est que le cinéma, qui savent ce que c'est que l'animation, sont probablement déjà, enfin ils se disent, mais ça je le sais déjà, mais lui ne le sait pas, et je suis obligé de prendre ce chemin-là pour lui parler, pour le mettre dans le coup, et je réunis à ce moment-là aussi, sur l'écran, je lui présente des choses que j'ai faites à certains moments, qui étaient mes toutes premières expériences d'animation, mes tout premiers dessins animés que j'ai faits, alors que pour moi, ça n'était encore que une découverte, la découverte d'un moyen extraordinaire. Le fait de déplacer un objet, ou le fait de déplacer un trait, ou de faire des images un peu différentes et de les filmer à la suite, ça donnait une création de quelqu'un, ça donnait une existence et la vie pour un personnage. Et j'ai suivi ça, j'ai réuni des films qui vont dans cet ordre-là, uniquement dans cet ordre-là, ce qui fait que les personnages apparaissent, sortent des boîtes ou apparaissent au fur et à mesure comme ça et rentrent dans le jeu. Progressivement, on arrive à avoir des films, des éléments ou des extraits de films qui montrent tout de même... Je m'en suis pas tellement rendu compte quand je l'ai fait. C'est en travaillant sur le film que je m'en suis rendu compte. Ça correspond à une évolution en même temps. Ça cesse d'être le truc épatant, le truc de physique amusante, de faire l'expérience d'animation, de faire bouger un truc. Et puis, on commence à faire des choses avec des gags, avec des petits trucs marrants, comme ça. Et puis, progressivement, on fabrique des personnages qui prennent une identité beaucoup plus précise. Avec leur caractère, on commence à faire un scénario, et les scénarios commencent à être élaborés de mieux en mieux, enfin je veux dire, d'une façon plus constructive au fur et à mesure. Il y a des situations dramatiques, il y a des choses, ce sont de vrais scénarios qui existent, et c'est une succession de choses qui arrivent jusqu'au moment terminal, qui est le film que je préfère, celui que je porte le plus dans mon cœur, qui est Le Petit Soldat, qui n'a rien à voir avec celui dont on parlait tout à l'heure, qui est simplement comme point commun qu'il est projeté sur un écran et que les images sont enregistrées sur de la pellicule. C'est la même famille, disons, de choses. Mais en dehors de ça, c'est ça l'évolution du film. C'est-à-dire qu'il y a un film qui est une explication que je donne à un de mes petits personnages, je lui explique à peu près d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, mais c'est difficile en plus de ça, je peux pas lui apprendre, je peux pas faire de la philosophie avec lui. Et en dehors de ça, à l'intérieur de ce film qui a cette espèce de colonne vertébrale, il y a des vertèbres qui sont les films qui viennent là pour disons de choses. Mais en dehors de ça, c'est ça l'évolution du film, c'est-à-dire qu'il y a un film qui est une explication que je donne à un de mes petits personnages, je lui explique à peu près d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, mais c'est difficile en plus de ça, je peux pas lui apprendre, je peux pas faire de la philosophie avec lui. Et en dehors de ça, à l'intérieur de ce film qui a cette espèce de colonne vertébrale, il y a des vertèbres qui sont les films qui viennent là pour amorcer les choses.
Alors on perçoit peut-être pas justement suffisamment cette colonne vertébrale, enfin moi elle m'a peut-être manqué un petit peu.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, non mais je comprends ça, mais je vous explique aussi d'un autre côté le sens aussi que j'ai donné à ce montage, c'est-à-dire que même il y a des films, aucun de ces films n'est entier, il n'y a ni les génériques ni le mot fin, parce que sans ça, à chaque fois, on verra le mot fin sur un de ces films, les gens seraient pensant que le long métrage et le film est terminé, ils foutraient le camp, et bon, alors que c'est pas ça. Ça a été comme ça, j'ai même fait des montages un peu plus serrés que le film d'origine, dans ces cas-là. Et petit à petit, ces films se sont installés là-dedans, mais vraiment, alors, ils prennent exactement un rythme qui n'est pas le rythme même qu'ils avaient à l'œil, mais qui est le rythme d'éléments de vertèbres, dans le fond, d'une colonne vertébrale. C'est ça.
Je vais revenir sur le pourquoi moi j'ai aimé la construction du film. D'abord, je pense que donc il y a un aspect pédagogique comme ça, mais qui est pas préchi-précha ennuyeux du tout, parce qu'effectivement on nous montre Paul Grimaud, on vous montre dans votre élément, c'est-à-dire le studio dans lequel vous travaillez, et de ce point de vue-là, il y a un aspect tout à fait documentaire, je trouve. Mais en même temps, on ne nous montre pas la complète fabrication du dessin animé, donc l'aspect magique du cinéma d'animation est préservé. Même s'il y a des éléments où on nous montre vous donner un coup de ciseau dans une feuille de papier, où on voit quand même montrer un petit peu la démarche du dessin animé, c'est pas tout à fait complet. Et ça, j'ai bien aimé, mais ça ne détruit pas la magie.
Absolument, parce que ça serait, à ce moment-là, je casse le film si je commence à montrer les coulisses en même temps. C'est un autre film, c'est un documentaire sur l'animation, et c'est ça que je suis bien gardé d'entreprendre.
Et alors, autre point que je mets tout à fait en faveur du film, c'est une construction évolutive dramatiquement, puisque tout va vers des films de plus en plus dramatiques. Et là, on pourra voir justement cette construction dramatique. Je veux dire, effectivement, ça termine sur une apothéose dramatique et tragique, celle du petit soldat, qui est véritablement un superbe et un grand film. Pas de problème là-dessus. Et d'autre part, alors moi j'y vois aussi une très nette évolution chromatique. Il y a, du point de vue des couleurs, alors on va peut-être revenir d'ailleurs sur le film, la manière dont il est construit, parce que c'est pas les films qui passent dans l'ordre chronologique. Il y a chronologiquement des inversions, des choses qui ne sont pas dans l'ordre chronologique de l'œuvre. Et alors, moi j'ai l'impression qu'on part comme ça. Bon, du marchand de notes qui est en noir et blanc, et je crois que ça, c'était pas à l'origine.
Non. C'est un film de couleur, c'est un film en couleur très soigné, mais même dans le propos, là, je pense qu'il est préférable qu'il soit en noir et blanc aussi, parce que ça fait vraiment le début, c'est l'alphabet, c'est la planche de bâton, quoi, c'est ça.
Tout à fait, et il est d'ailleurs encore dans le dessin, presque à l'image, bien que déjà très séparé, mais des premiers Max Fleischer, ceux de Popeye. Il y a un peu cet esprit-là. Et on évolue alors après dans des teintes fauves, dans des teintes rouges, orangées, même le voleur de parapluie où il y a...
Paratonnerre.
Le voleur de paratonnerre.
Mais là, ils ont dessus des parapluies, alors c'est pas les flics. Hein,
c'est ça. Bon, il y a des tons... Alors, la nuit est traitée, parce que le film se passe la nuit, et on a des rouges, orangés, comme ça, des teintes complètement fauves. Et puis, il y a la polychromie qui apparaît beaucoup plus avec le joueur de flûte. Mm-hmm. Et puis, plus ça va aller dans le film, plus, à mon avis, le travail sur la couleur va être fouillé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une évolution chromatique et dramatique. Vous avez conçu le film dans ce sens ?
Probablement que instinctivement, vous savez, quand on peint, quand on dessine, les choses arrivent comme ça sans que ça soit toujours prémédité. Mais effectivement, il y a une. Enfin, je me suis arrangé de façon à ce que ça s'emboîte, à ce que ça se succède, que ça réponde un peu à. Enfin, c'est pas un film méthodique, c'est pas un film. Non, je dis aussi, c'est venu comme ça aussi. Et ça, c'est bien qu'il y ait des choses qui arrivent comme ça.
Il y a une évolution dramatique parce que on part de films relativement légers. Alors là, on pourra peut-être revenir sur la période Jean Orange, Roger Lénard, et puis la rencontre avec Prévert, parce que ça me semble très très important. Et puis. À un moment donné, ça bascule dans des choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus profondes. Et votre vision du monde aussi s'affirme de plus en plus. Alors, quand on prend les premiers, que ce soit le marchand de notes, l'épouvantail et même le petit joueur de flûte, on voit déjà apparaître le monde de Paul Grémaud, parce que je pense que vous avez un monde très personnel qu'on reconnaît dans vos films. Et puis, avec Prévert, j'ai l'impression que ça décolle beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez justement nous parler de ces trois points que moi je vois importants, Jean Orange, le travail avec Jean Orange, le travail avec Roger Lénard, et puis la rencontre avec Prévert, qui me semble fondamentale.
Oui, avec Jean, c'était les tout premiers films que j'ai faits, je les ai faits avec Jean Orange. D'abord, je l'avais connu avant même de faire du cinéma. Je l'avais rencontré dans une agence de publicité où nous travaillions là en 1930. Et il travaillait dans cette boîte. C'est là que j'ai connu Jacques Prévert aussi, d'ailleurs, qui était venu faire un essai. Il y avait aussi Jean Anouilh. Il y avait tout un petit groupe de gars absolument inconnus à l'époque. Et alors ça a été, c'est drôle parce que on travaillait dans la publicité, c'était un métier nouveau, un métier assez marrant, qui payait bien, qui payait mieux que les boulots que j'avais fait jusque-là. Mais il s'est passé une chose aussi, c'est que moi je ne pensais qu'au spectacle, à ce moment-là, j'avais envie de faire du cinéma, j'avais envie de jouer, j'avais envie de faire des films, je voulais faire des films comiques, et alors... Jean Orange, il s'est trouvé que Jean Orange lui-même, il suivait le même cap parce qu'il avait déjà écrit à Buster Keaton pour lui proposer ses services de gagman. Il y avait aussi, Jean Anouilh, il y a Jacques Prévert qui était venu comme ça pour faire cet essai dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis petit à petit, on ne parlait que de spectacles et c'est accès qui nous intéressait. Au bout d'un moment, on en a eu. Quand c'est le bail, c'était suffisant. On est resté à peu près une année dans l'agence de publicité, puis on est sorti pour faire des petits films publicitaires, parce que Jean avait eu l'idée de faire des films, des sketchs publicitaires, des sketchs en vue réelle, des petits sketchs comiques. Et on mettait la main à pâte, on faisait tout ça nous-mêmes. C'est là que j'ai joué tant que ça pouvait, parce que je jouais pendant des tas de rôles avec Artigas, qui était un copain de Buñuel, et de Miro aussi. Et puis alors il y avait Max Ernst, se balader on ne sait pas où.
Mais justement j'aimerais dire que le premier film qu'on voit dans La Table Tournante et qui d'ailleurs à la fois donne son titre au film, c'est un film qui s'appelle La Table Tournante qui est fait en 1931, qui est un film de publicité je crois donc pour l'immeuble Lévitan. C'est un film très influencé par les surréalistes et j'ai pensé à Buñuel, un petit peu le Buñuel de l'âge d'or et même Vigo. Mais je sais pas, dans l'esprit. Hein. Alors, quand vous me dites que Buñuel était pas loin.
Ah, ben si, sauf qu'on se connaissait. On se connaissait Maxime. D'abord parce que, d'une part, par Jacques Prévert qui avait des copains surréalistes, et puis Jean Orange, dont le beau-frère était Max Ernst. Enfin, tout ça, on était en plein dans le bouillon, quoi. Hein. C'était. Et bon, l'histoire de cette table, comment ça se passait, on voyait un espèce de petit pavillon isolé dans le quartier des Buttes-Chaumont, tout en haut, et Un couple sort vraiment à l'air très fatigué. Ils avaient dû se donner beaucoup de mal pour faire tourner la table. En tout cas, je ne sais pas comment ça s'était passé. Ils sortent exténués comme ça. Ils s'engagent dans la rue en titubant. Ils foutent le camp. Et puis la porte s'ouvre derrière eux. Et on voit une table, un petit guéridon qui sort tout doucement comme ça, en trottinant, qui cavale derrière. Et qui réussit à les rattraper parce qu'elle avait oublié de leur dire un truc très important, c'est qu'un meuble signé Lévitant est garanti pour longtemps. Alors elle arrive à leur donner ça, et à ce moment-là, bon, le film est terminé.
Pas de rose sans épine, pas d'épouse sans belle maman, pas de sérénade sans mandoline, pas d'homme de lettres sans roman. Il n'y a pas du moins, je l'imagine, de banquet sans discours passionnant, pas de médecin sans médecine, pas de grande vedette sans petit tourment, pas de grande vedette sans petit tourment, car l'existence, drôle de chose, un jour tout est noir, le lendemain, tout est rose. La vie, mes amis, c'est la pluie, le beau temps, qui rit vendredi, dimanche pleure. Mais pourtant chez vous, songez qu'à chaque instant, vous pouvez être heureux en fredonnant sur l'heure. Bonjour. Mon poulet adoré, tout doré, comme on est bien chez nous, ma joie demeure. On est heureux soir et matin, car nous possédons, c'est certain. Cuisinière et chauffage Martin, cuisinière et chauffage Martin, Arthur Martin, Arthur Martin, hier, aujourd'hui. Curie, quand nous serons mariés, vous aurez des plaisirs variés. L'amour et la fortune, pour vous j'irai décrocher la lune. Et nous serons heureux longtemps, dans nos meubles qui viendront de chez Lévitant.
Alors, on a fait des tas de trucs comme ça et qui sont... on se marrait bien en plus. Et on avait nous, on tournait comme on pouvait ces trucs-là en louant des caméras. Et puis, quand on avait un boulot sérieux à faire, on ne fallait pas s'en payer. Ou quand on jouait qu'on pouvait pas être partout, ben, on avait d'autres copains qui venaient nous donner un coup de main. On a eu des... Comme opérateur, on a eu Yves Allégret, on a eu Marcel Carnet, on a eu Chenal... On a eu plein de, comme ça, enfin c'était ça un beau générique de film, quoi. Mais enfin, pour en venir à ça, donc c'était avec Jean qu'on a fait ces trucs-là, et puis petit à petit, ben on est rentré dans le métier, on est rentré dans le cinéma. Moi j'ai fait un peu de doublage, j'ai fait des trucs, Jean a commencé à faire des scénarii. Jacques et Pierre Prévert travaillaient chez RK Prodisco. Jacques commençait à faire des traitements avec des dialogues. Puis en même temps, on faisait du théâtre ensemble, ce qui était une chose extrêmement importante pour quelqu'un qui veut faire du spectacle, c'est de jouer un peu, de monter sur les planches, et puis parce qu'on a besoin de cet écho pour régler son tir. Quoi.
C'était en quelle année le théâtre? C'est l'expérience liée au groupe Octobre?
Le groupe Octobre, le groupe Octobre qui était en... Ça a commencé aux environs de 1933, quelque chose comme
32.
Ça.
32. Avec vous étiez dans le groupe Prémisse.
Moi, je suis rentré, c'était Prémisse déjà.
Ah oui, c'était donc juste avant le groupe Octobre.
C'est ça. Et alors, quand on était au groupe Octobre, il y avait un autre groupe, j'ai eu un petit groupe, c'était des gars qui étaient plus jeunes un peu, dont s'occupait Sylvain Itkin et qui s'appelait le groupe Mars.
Oui.
Et c'est là qu'il y avait, dans le groupe Mars, qu'il y avait les frères Marc. Francis Lemarque, c'était...
Ah, voilà.
Oui, et c'est moi, et un jour, ici, Vintkin me dit, dis donc, tiens, les petits gars, ils voudraient faire un numéro, ils voudraient chanter, ils voudraient que... Mais alors, il faudrait qu'ils fassent un peu la musique. Alors, moi, je grattais un peu de guitare. Alors, il m'avait dit, essaie de leur apprendre les premiers rudiments de la guitare. C'est pour ça que les premiers accords de Francis, c'est moi qui lui ai appris, oui. Enfin, tout ça, on fait des petits, toujours.
Et le groupe Octobre, vous pourriez m'en dire plus comment ça fonctionnait au début? Oh, c'était quoi le projet
c'était
pour les auditeurs qui savent pas.
Bah, c'était une période folle. En dehors même de l'aspect. De l'aspect théâtral qui était gratiné, il faut dire, parce qu'on travaillait avec on faisait nos postiches, on faisait tout nous-mêmes, les costumes et tout. Puis on jouait, on allait jouer partout, on allait jouer dans des usines quand ils étaient en grève et qu'ils savaient pas quoi foutre, qu'ils s'emmerdaient les gars, alors on leur donnait des spectacles. On s'amusait bien. Puis en même temps, c'était très instructif pour nous tous sur le plan du théâtre, quoi. C'est une période, vous savez, ça m'embête toujours de revenir dessus parce que on était tous jeunes, on s'entendait bien, on faisait ça, et puis c'était formidable. Mais maintenant qu'ils ont tous disparu, on a l'impression de, chaque fois qu'on le raconte, la mémoire joue un petit peu là-dessus, c'est un peu comme une passoire, vous savez, les mémoires, ça fout le camp un peu. On a toujours l'impression de rapiécer quelque chose ou de déformer quelque chose quand on le raconte. Je ne sais pas si vous sentez ça.
C'est-à-dire que moi, je suis fascinée, je dois dire, par l'expérience du groupe Octobre, parce que c'est une expérience de théâtre qui était destinée, disons, au peuple, hein, pour faire
court. Oui, absolument, oui, c'était sûr.
Et bon, c'est juste avant le Front Populaire, et c'est une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. Alors donc, c'est puis bon, le groupe Octobre, c'est quand même une référence aussi à la Révolution russe, je pense.
Oui, absolument.
Donc, c'est pour ça que moi, sur le groupe Octobre, il y a des choses qui me passionnent. Même les fameux chœurs parlés au moment des commémorations de la Commune, au Père Lachaise et tout. Je veux dire, ça fait partie pour moi, au-delà de ça, ça fait partie de la mémoire ouvrière. Et moi, j'y suis un peu attachée.
Oui, ça, vous avez raison, c'est une période extrêmement importante. C'était très important même pour tout le monde, c'est... et on y croyait dur comme fer, enfin on était passionné par ce truc-là, c'était formidable. Il y avait Bussière, il y avait
Baquet,
il y avait Maurice Baquet, il y avait Marcel Duhamel, Jacques Prévert, bien sûr.
Duhamel, c'est la série noire.
Oui, il y avait moi aussi, il y avait Max Maurice, qu'est-ce qu'il y avait encore? La mémoire.
Tout à coup, on était une quinzaine de copains, on en tenait, amusez-vous, faites les fous, la vie passera comme un rêve. Alors naturellement, tout le monde s'agglutinait autour de nous, et quand on sentait qu'on avait bien capté l'attention de ce public, on leur balançait un cure-parler de Jacques Prévert. Alors ça commençait, camarades, écoutez-nous, aujourd'hui c'est le 14 juillet, aujourd'hui vous avez le droit de danser. Demain c'est le 15 juillet, le terme, c'est la fête nationale pour les propriétaires. Passez la monnaie, on ne danse pas souvent, mais on pèle tout le temps. Chaque jour, les salaires baissent et le coût de la vie augmente. Les impôts si lourds pour les petits, si légers pour les gros. Nous dansons devant le buffet. Les huissiers emportent les buffets. On ne sait plus sur quel pied danser. Nous danserons sur le pied de guerre puisque les crédits sont votés. 10 milliards, 10 000 millions de francs en plus pour la guerre. Nous danserons au pas qu'à danser, la valse bleue horizon. Nous danserons sur nos moignons pour les marchands de canons. Et puis, quand on sera sous terre, ce sera le moment de se taire. Disparu, ni vu, ni connu. À qui le tour d'être le poilu inconnu? Demain, les lampions sont éteints, et l'année prochaine, ce sera la même rengaine. Amusez-vous, faites les fous. Mais l'année prochaine, ce sera peut-être l'année de la prochaine. L'année prochaine, où serez-vous? Mort, peut-être. Le voulez-vous? Non? Eh bien alors, défendez-vous. Déjà, on n'entend plus parler de crise. Plus il y a de blé, plus on crève de faim. Plus il y a de richesse et plus il y a de mouise, plus il y a d'or, plus il y a de puretin. Il y a trop d'ouvriers, mais faut faire de la cadence et du rendement. Les bourgeois ne pensent plus qu'à la guerre pour liquider les stocks des gens. Paraît qu'il y a trop de machines sur terre, trop d'ouvriers, trop de paysans, trop d'employés, trop de fonctionnaires. Mais il n'y a jamais trop de militaires. Il y a trop de tout, il y a trop de tout. Vous croyez que c'est chouette? Il y a trop de tout, il y a trop de tout. Eh bien, pas du tout. Y'a trop de tout, y'a trop de tout, c'est à perdre la tête. Y'a trop de tout, y'a trop de tout, tout partout. Comprenez-moi bien, y'a trop de tout, y'a trop de tout. C'est pour ça que je n'ai rien, y'a trop de tout.
Moi, je crois que c'est important quand même que les gens sachent ce que c'est que le groupe Octobre. C'est un moment important.
C'était une chose très importante.
Moi, je crois que ça a été une sorte de truc très important.
C'est justement parce que c'était très important que j'ai un peu peur de déformer, vous voyez.
L'esprit du groupe.
Mais pour les mêmes raisons qu'il y a quelques années, parce que j'ai quand même rencontré beaucoup de monde, beaucoup de gens, et puis j'ai fait pas mal d'expériences aussi dans pas mal de domaines. Des copains m'ont poussé à écrire mes souvenirs, mes mémoires, mémoire c'est un grand mot, mais enfin des souvenirs comme ça. Et j'ai commencé à le faire, et puis j'ai renoncé tout de suite, parce que ça m'a foutu le cafard. Je me suis dit, merde, mais enfin, j'arrive quand même, tout d'un coup, cesser de s'occuper de ce que j'allais faire demain, de ce que j'allais faire immédiatement pour établir la table de matière, la table de matière de ma propre existence, comme ça, résumer les chapitres précédents, ne penser qu'à ça, et puis, c'est sinistre. Enfin, moi, j'ai envie de, à ce moment-là, si j'avais fait ça, j'aurais pas fait la table tournante, j'aurais pas fait les autres films que j'ai fait depuis, parce que, quand même, tous ces films, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont de plus en plus imprégnés de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on ressent, de tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies, parce que quand même, quand on voit tout, il y a eu des moments heureux, puis il y a eu des moments d'une rare saloperie, enfin quand même des choses absolument ignobles, que j'avais pas le droit, moi, manipulant le spectacle, manipulant des choses, racontant des choses aux gens, j'ai pas le droit de passer toute ma vie à raconter l'histoire de petits chats qui courent après des petites souris sur des claviers de piano pour faire des gags sonores. C'est pas possible, il y a des choses injustes qui se passent et je veux pas dire qu'il faut n'avoir que ça dans la tête, il faut aussi distraire les gens, faut pas les emmerder non plus, mais quand même faut pas se mettre un bandeau sur les yeux et dire ça faut pas y toucher, c'est pas possible. C'est pour ça que tout ça aussi a une évolution qui se passe. Et peut-être aussi que les emmerdements qu'on a eu, le fait de ne pas trouver d'appui pour faire ces films, d'avoir beaucoup de mal, penser qu'à ça, et puis c'est sinistre. Enfin, moi j'ai envie de, à ce moment-là, si j'avais fait ça, j'aurais pas fait la table tournante, j'aurais pas fait les autres films que j'ai fait depuis, parce que quand même tous ces films, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont de plus en plus imprégnés de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on ressent, de tout ce qui s'est passé au cours de ces dernières décennies, parce que quand même, quand on voit tout, il y a eu des moments heureux, puis il y a eu des moments d'une rare saloperie, enfin quand même des choses absolument ignobles, que j'avais pas le droit, moi, manipulant le spectacle, manipulant des choses, racontant des choses aux gens, j'ai pas le droit de passer toute ma vie à raconter l'histoire de petits chats qui courent après des petites souris sur des claviers de piano pour faire des gags sonores. C'est pas possible, il y a des choses injustes qui se passent, et je veux pas dire qu'il faut n'avoir que ça dans la tête, faut aussi distraire les gens, faut pas les emmerder non plus, mais quand même faut pas se mettre un bandeau sur les yeux et dire ça faut pas y toucher, c'est pas possible. C'est pour ça que tout ça aussi a une évolution qui se passe. Et peut-être aussi que les emmerdements qu'on a eu, le fait de ne pas trouver d'appui pour faire ces films, d'avoir beaucoup de mal à trouver le pognon pour ça, ça joue aussi. Ce qui fait que ne faisant qu'un film de temps en temps, il est encore plus chargé de dynamite et de sévérité et d'amour aussi que si on fait des choses uniquement par habitude. D'ailleurs, faut pas faire des choses par habitude, comme il faut pas voir des gens uniquement par habitude. Faut les voir parce qu'on les aime, parce qu'on a envie de les voir, et puis on travaille parce qu'on a envie de faire quelque chose, de pondre des trucs.
Et puis la rencontre avec Prévert, il y a une évolution. Il y a une évolution justement dans cet engagement. Bon, moi je dirais que vous vous êtes défini comme humaniste engagé en quelque sorte. Moi je crois que c'est ça. Il y a un amour de l'humanité qui se dégage, une révolte contre l'injustice. Mais bon, on va aller vers des films largement anticolonialistes, pacifistes. Bon, que ce soit à travers Le Diamant, que ce soit à travers Le Chien Mélomane ou Le Marchand de Canons, effectivement, comme je crois vous le pensez, est assez gratiné. Et puis même le roi et l'oiseau et le petit soldat, enfin. Alors ça, j'aimerais que vous m'en disiez plus sur cette collaboration avec Prévert. Est-ce que ça vous a apporté?
Oui, effectivement, il y a eu cette évolution dont nous parlions. Quand j'ai commencé à travailler avec Jean Orange, à ce moment-là, moi, j'étais pas encore. Tu sais, il y a deux personnes finalement en moi en ce moment. Il y a le gars qui fait les films et puis il y a le gars qui va au cinéma. Alors je vais voir des films que je ne suis pas forcément, c'est pas forcément des films que je fais. Je fais pas des films uniquement pour me regarder le nombril, c'est pas ça. Mais je vais au cinéma. Il y a des moments où je peux pas y aller parce qu'il y a des films que je trouve pas très bons. Enfin, puis il y a des moments quand il y a des films qui m'intéressent beaucoup, alors j'y vais. Quoi. C'est pas, je ne les regarde pas que mes films, c'est ça. Mais à ce moment-là, alors il y avait pas une tradition, mais enfin les films que j'allais voir, il y avait des gags et je trouvais ça très marrant. Et Jean Orange, qui est un personnage qui est plein de fantaisie, il avait pas son pareil pour trouver des gags, il trouvait toujours des trucs. Alors j'aimais bien travailler avec lui parce qu'on se renvoyait la balle, on s'amusait beaucoup en travaillant et c'était une bonne façon de travailler, je veux dire. Et comme je vous l'ai dit, comme je ne vous l'ai pas dit, mais c'est par Jean Orange que j'ai rencontré, que j'ai connu Jacques Prévert, parce que c'est lui qui l'avait amené à l'agence de publicité où nous travaillons. Et puis ça n'avait pas collé, mais enfin moi j'étais resté ensuite, j'avais revu Jacques, on était devenus copains. Et ça demandait beaucoup de temps, parce que moi j'avais fait des tas de trucs avec Jacques Prévert, c'est-à-dire le théâtre, des choses comme ça, les soirées au bistrot, les trucs comme ça. Bon, tout ça, c'était... On passait notre temps agréablement, on sillonnait le quartier de Saint-Germain-des-Prés ou de Montparnasse. Mais par contre, on ne travaillait pas, on n'avait jamais rien foutu comme boulot ensemble, rien du tout. C'était un jour par hasard que je tenais sous mon bras un espèce de petit machin de calepin sur lequel j'avais esquissé déjà pas mal de croquis. C'était autour d'un roman d'un conte d'Andersen qui était l'intrépide soldat de plomb. Et ce truc-là, je le montre à Jacques, je lui dis, ouais, ce que je fais en ce moment. Et Jacques me dit, oh, ça serait fort bien, mais j'aimerais bien un jour qu'on travaille un peu ensemble. On avait, comme je le dis, on n'avait jamais rien fait en tant que boulot ensemble. Alors j'ai dit, oui, moi aussi, ça me plairait bien. On a dit, on va essayer. Et pour Le Petit Soldat, c'est comme ça que ça a commencé. C'est Jacques qui avait trouvé le titre du Petit Soldat, c'est ce truc qui s'appelait L'Intrépide Soldat de Plomb. Et on est parti là-dessus, on en a parlé, il n'y a jamais eu de scénario d'écrit, mais il n'y a pas eu moi j'ai fait des dessins, j'ai fait des choses comme ça, puis j'ai montré à Jacques, et puis on en parlait, on discutait le boudoir là-dessus, mais enfin c'était le truc que... C'est lui qui m'a dit, tu devrais apparaître dans ce film. Et c'est lui qui m'a dit, tu devrais apparaître en bonhomme de neige. Il trouvait que je ferais bien un bon bonhomme de neige. Moi j'aime bien les bonshommes de neige aussi. Enfin, alors j'ai dit, bon d'accord, je vais mettre bonhomme de neige.
Galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, il arrive au village. Voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît. Ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau. Que sa pipe et puis son vieux chapeau.
Mais alors avec Jacques, on a, à partir de ce film-là, quand il a été question tout de suite après Le Petit Soldat, la compagnie de production pour laquelle je travaillais avait envisagé de mettre sur son plan de production un film de long métrage. On m'a demandé si j'étais partant pour ça, j'ai dit oui, bien sûr, et j'ai dit, mais je fais le scénario avec Jacques Prévert. Et Jacques Prévert me dit, j'ai toujours le bouquin d'Andersen que tu m'as prêté, je l'ai relu, il y a un truc qui serait formidable là-dedans, mais je vais te le repasser, tu vas le relire. C'était les bergers ramoneurs. On avait entre-temps pensé à un autre truc qui était les cygnes sauvages, et aussi un autre qui était la reine des neiges. Et puis aussi de revenir à un scénario qui aurait été basé sur le tout premier scénario que j'avais écrit, qui était Monsieur Pip fait de la peinture, mais en le redéveloppant, en lui redonnant une forme très différente. Et c'était presque, c'est curieux, c'était presque, à ce moment-là, on aurait été tout près de ce qui est devenu finalement Le Roi et l'Oiseau. C'est drôle, hein. Et puis finalement, on s'est mis à l'œuvre et on a fait La Bergère Ramoneur. Et après La Bergère Ramoneur, il y a eu un moment où ça a été très mal puisque le film n'a jamais pu être terminé. Probablement, il a fallu que je récupère très longtemps après. C'est quand on a fait La Fin dans le Monde, La Fin du Monde, le Diamant, Le Chien Mélomane, et ensuite avec Pierrot Prévert et Jacques, on a fait aussi, toujours avec Andersen, on a fait le film Le Petit Klaus et le Grand Klaus. Voilà. Et alors là, c'est devenu, évidemment, c'était des choses, les sujets qu'on avait pris, on les a vachement travaillés dans le goût du jour, quoi.
Alors, ce qui me frappe par rapport à Andersen, c'est que vous êtes revenu souvent à Andersen. Alors, ça révèle bien une chose, c'est que vous n'illustrez d'abord pas du tout Andersen, vous l'adaptez, vous transformez complètement tout. Et ça, on pourrait revenir là-dessus. Et puis, alors, vous avez une conception du dessin animé et de l'espace dans le dessin animé qui est très, très personnelle. Bon, par exemple, dans la Bergère et le Ramoneur, dans le conte d'Andersen, c'est un monde en miniature. Ce sont des petits bibelots, il n'y a pas de personnages humains, c'est dans un salon, c'est un monde assez coquet, assez charmant et miniaturisé. Et alors, quand on voit Le Roi et l'Oiseau, on a un espace monumental. Moi, d'ailleurs, à chaque fois que je vois Le Roi et l'Oiseau, peut-être à cause de la ville du dessus, la ville du dessous, je vous l'ai dit, ça me fait penser à Métropolis. Et alors là, s'il y a bien un cinéaste qui était lié à l'architecture, c'est bien Fritz Lang. Et alors là, on passe d'un coup de quelque chose qui est miniaturisé, et je le dis sans mépris pour Andersen, qui est un très grand écrivain, à quelque chose de monumental. Et c'est la conception de l'architecture et de l'espace et du cinéma, parce que même déjà dans Le Voleur de Paratonnerre, il y a des espaces comme ça très très abrupts, il y a des plongées, il y a vraiment un travail de caméra, de mise en scène. Alors ça, j'aimerais que vous m'en disiez plus, ce rapport avec Andersen et cet aspect d'adaptation plutôt que de d'illustration.
On peut dire que tout existe dans tout, à peu près. C'est-à-dire que si vous prenez il y a de quoi faire une bibliothèque uniquement avec des contes arabes, des contes chinois, des contes norvégiens, des contes allemands, des contes d'Andersen, de Perrault et tout ça. Et vous retrouvez à peu près tous les thèmes de toutes les histoires, vous pouvez les retrouver avant cherchant bien. Moi, ce qui m'intéresse dans Andersen, c'était pas de faire une illustration de ces contes. D'Andersen, je prends la graine. Je suis pas fabricant de graines, donc je prends une graine et puis je la fais pousser, je l'aide et ça développe des tas d'autres choses, cette espèce de truc hybride qui devient. Mais c'est Andersen, c'est une mine inépuisable. Enfin, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a chez Andersen. Il faut faire attention, faut pas se laisser trop entraîner sur un certain ton qui peut être qui nous rapprocherait du couvercle des boîtes de chocolat qu'on s'offre au moment des étrennes. C'est pas ça. Il y a autre chose. Sur le plan humain, c'est très très intéressant.
Je crois aussi. Oui. Ben justement, il y a ce reproche qu'on a souvent fait à Andersen d'être un peu mièvre et fade, et moi je crois pas du tout, et parfois ça a été dit à propos de votre œuvre. Moi aussi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que, alors là, je vais peut-être vous définir comme ça, je dirais que vous êtes un peu le poète de la liberté et que vous avez la liberté de la poésie dans vos films. Et ça, j'aime beaucoup, avec même un petit clin d'œil anarchiste de temps en temps, qui, moi, me plaît beaucoup. Mais il y a un monde de Paul Grimaud. Et ça, vous le faites passer dans votre travail de cinéaste, quoi. Vous faites un travail... Alors, justement, moi, j'aimerais vous demander, comment vous placez le dessin animé ? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, ça fait partie de tout le cinéma ? Ou bien est-ce que il y a cette définition d'Alexeïev qui disait que c'était le 8e art. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. J'aimerais qu'on parle du dessin animé.
S'il l'appelait le 8e art, non, il s'était trompé. Parce qu'à ce moment, il aurait fallu appeler le cinéma le 8e art et l'appeler le dessin animé le 7e art, puisque le dessin animé est venu avant le cinéma. Non, ce serait la moindre des corrections, quoi. C'est vrai, les gens ont commencé à animer des pères. Oui.
C'est Maren Ubridge, c'est
oui,
ça
oui, oui, puis Renault.
Renault, oui,
Renault, je comprends. Puis, bon, on s'en fout, c'est pas la question de priorité, ça n'a aucune importance.
Bah, d'ailleurs, vous faites hommage, dans votre film, il y a un hommage à Émile Cole, puisqu'on voit une affiche d'un film d'Émile Cole.
Ce qu'il y a, le dessin animé, c'est un moyen d'expression extraordinaire qui permet, je ne vais pas revenir là-dessus encore, mais c'est du cinéma.
Oui.
C'est du cinéma d'abord parce que c'est un spectacle qui est enregistré sur pellicule photographique, sur pellicule, et projeté sur un écran. Bon, bah, alors ça, c'est déjà du cinéma, c'est déjà une chose qui est nette. On a un voisinage très très bizarre avec les gens de cinéma. Moi je m'entends bien avec les gens de cinéma parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ je voulais faire du cinéma et je ne pensais pas du tout faire des dessins animés. Faire du dessin animé, c'est venu après l'expérience de la table, et puis parce qu'un jour Pierrot Prévert m'a dit: mais tu dessines aussi, tu devrais essayer de faire un bout de dessin animé pour voir comme ça. C'est ce que j'ai essayé de faire, puis j'y suis resté. Mais au début je pensais ça, quand je fais un film, je ne pense pas en tant que dessinateur. Je ne pense pas, vous savez, parce qu'il y a des gens qui dessinent et qui essaient de faire bouger leur dessin, de leur donner une dimension de plus, donner quelque chose en plus, de leur donner, les rendre, de faire des personnages, enfin de leur donner une existence. Mais pour moi, je regarde pas ça. Moi, je pense que ce sont de vrais personnages, avec vraiment toute une psychologie, avec tout un truc. Je pense à leur caractère, à leur truc, et je pense ça en cinéma. Je pense en plan, en scène, je me dis, il y a un monde dans lequel ils évoluent, ce monde dans lequel on peut respirer, peut avoir des lois différentes de physique que celles du monde dans lequel on vit. Enfin, par exemple, dans le World Partner, quand ils sautent au-dessus d'un toit à l'autre, ils passent vraiment en ralenti, alors que si on avait fait ça en vue réelle, le gars, il serait retombé au bout de 7 ou 8 images, il retombait sur l'autre plan. Vous voyez, c'était... Alors, ça,
Je dis, on a 5 minutes encore.
Oui, alors faut que je me grouille.
Non, c'est que je voudrais qu'on finisse sur le dessin animé aujourd'hui.
Oui.
Dire où ça en est. Et comme il reste 5 minutes d'émission, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Paul Grimaud, là? D'abord, qu'est-ce qu'il y a comme dessin animé en France?
Alors, comme dessin animé en France, il y a de l'espoir pour. Et c'est-à-dire qu'il y a des possibilités en tant que talent. Ça, indiscutablement, il y a beaucoup de jeunes qui, d'ailleurs il suffit d'aller au festival de Marly, on voit le banc d'essai, ils ont tous des petits bouts de machin à porter, comme ça on voyait quelque chose. Il y a vraiment une bonne fournée de talents. Il y a aussi quelques gars qui travaillent, qui essaient de faire leur truc, mais en réalité, ce qu'on voit le plus possible, ce qu'on voit à la télévision, c'est par exemple, c'est la chose qu'il faudrait pas faire, à mon avis, enfin, c'est parce que c'est vraiment la pire abomination, enfin, c'est dégueulasse, quoi. Alors ça, je veux pas en parler trop, parce que ça me fout le moral, ça me scie le moral, comme on dit. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que... repenser, faire des films pour le cinéma ou faire des films pour la télévision, mais les faire qu'ils soient bons, en respectant un peu quand même les gens et qui ont montré ça, parce que c'est très dangereux. Vous savez, il y a des générations qui sont polluées petit à petit comme ça. Les gosses qui voient les choses aussi laides, que c'est aussi imbécile que celles qu'on montre les trois quarts du temps, ils pensent, ils regardent ça, ils s'approprient ça parce qu'ils pensent que c'est fait pour eux, et puis ils idéalisent un peu, ils vont garder ça comme ça, et puis plus tard ils diront: oh, c'était le bon temps, vous voyez ça, parce que plus tard, en continuant dans ce sens-là, ça sera encore plus merdique que ça l'est en ce moment. Hein.
Qu'est-ce que vous pensez du dessin animé avec la palette graphique et l'ordinateur, l'image numérique, tout ça?
Bah, vous savez, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que j'aime bien dessiner avec mes mains, que si... je trouve ça... ça peut servir peut-être à des gens qui ne savent pas servir de leurs mains. Ça peut leur être utile. Ça,
y a pour des dessinateurs manchots.
Oui, moi, je serais... Bon... Je sais pas, moi, je trouve que tant qu'on a des mains, on s'en sert. Moi, si un jour je m'aperçois que je dessine mieux avec mes pieds, je serais pas assez con pour qu'on devait travailler avec mes mains, je dessinerais avec mes pieds ou avec une machine, éventuellement. Mais il y a autre chose. Il y a le fait que, si vous voyez la comparaison, je vais vous faire une comparaison. à force de pas de vouloir remplacer les mains par des machines, de remplacer tout par des machines. Parce que les gens, au lieu de marcher, ils prennent tout de suite, ils prennent une voiture pour aller chercher une boîte de un paquet de cigarettes au machin au coin et tout ça. Alors finalement, on ne servira plus de ces gens au bout d'un moment. Et à ce moment-là, on arrivera au moment où un cul-de-jatte au volant d'une voiture marchera plus vite que vous à pied, vous comprenez. Alors si c'est ça qu'on appelle le progrès, il faudrait que ça soit clair, quoi. Hein? Alors je sais pas, moi, vous savez, Jacques Prévert, hein, on peut donner une bonne citation de Jacques. Le progrès, pour Jacques Prévert, c'est un cul-de-jatte qui marche à pas de géant. Pas mal non plus.